Bien, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Le titre de ma chronique Finance Vérité numéro 35 d'aujourd'hui est Vous avez dit rareté? À ce sujet, si vous entendez un bruit de ventilateur, c'est parce que l'air frais se fait rare. Dans l'actualité économique générale et quoi? Soyons sérieux. Je me rappelle avoir acheté en 1988 un récepteur de télévision couleur de haut de gamme, dont l'écran du tube cathodique était dopé à l'europium. Cet apport de métal rare renchérissait l'appareil et apportait une finesse d'image couleur inégalée à l'époque, en même temps qu'une luminosité et une profondeur exceptionnelles. De nos jours, 22 ans plus tard, la quasi-totalité des écrans plats de tous les appareils de TV, de téléphone ou d'ordinateur portable de haut de gamme sont dopés à l'europium. La fabrication de tous ces appareils électroniques de grande consommation exige dans leur composition matérielle l'apport de ce que l'on appelle des terres rares, dont l'europium fait partie. Ces terres rares ont donné leur nom générique aux 17 éléments suivants: le scandium 21, l'yttrium 39, le lanthane 57, lequel ouvre la série des 15 lanthanides, le cérium 58, le praséodyme 59, le néodyme 60, le prométhéum 61, le samarium 62, l'europium 63, le gadolinium 64, le terbium 65, le dysprosium 66, l'holmium 67, l'erbium 68, le tullium 69, l'ytterbium 70, le lutécium 71. C'est un lieutenant de l'armée suédoise qui les désigna ainsi en 1727, à l'époque où la langue française s'imposait naturellement à toute l'Europe. Depuis, on sait que ces métaux extraits de minerais, d'où le nom de terre, sont pour la plupart aussi courants que le plomb ou l'azote sur Terre, mais pas tous. Le cérium est le 25e élément le plus abondant, le thulium et le lutécium sont les moins abondants. Deux minerais sont particulièrement sollicités pour l'extraction des éléments recherchés, la monazite, qui est un orthophosphate de terres rares et de thorium, et la bastnasite, qui est un fluorocarbonate sous-produit du minerai de fer. Là où j'en arrive, c'est à la géopolitique qui s'en mêle dans la localisation des sources de ces minerais sur Terre. Jusqu'en 1948, la plupart des sources de terres rares provenaient des dépôts de sable en Inde et au Brésil. Durant les années 50, l'Afrique du Sud est devenue le principal après la découverte d'immenses gisements à Steenkampskraal. Est-ce que c'est un endroit à Zoulou? Je ne sais pas. Depuis le début des années 2000, les mines indiennes et brésiliennes ont été surpassées par la production chinoise qui fournit d'abord 95 puis enfin 97% des besoins actuels à partir de sa Mongolie intérieure, Bayan-Obo, district minier de Baiyun. Après avoir fait baisser les prix pour appâter l'Occident dans les années 80 et 90, les Chinois ont acquis le monopole qu'ils voulaient. C'est bien dans la nature du fameux sourire asiatique. Les pigeons occidentaux cherchent donc maintenant à diversifier leur approvisionnement. D'autant plus que la Chine a annoncé l'année dernière, en 2009, vouloir réduire ses quotas d'exportation à 35 000 tonnes annuelles au lieu d'une production attendue de 110 000 tonnes, c'est-à-dire réduire des deux tiers. Les Chinois veulent donc plusieurs choses en même temps. Faire grimper les prix en leur faveur et au détriment des pays occidentaux et de leurs consommateurs, dévoreurs de iPod, iPad, et préserver ces ressources de l'environnement en piégeant les Occidentaux à leur propre argumentation idéologique. Privilégier aussi la croissance de ses propres besoins intérieurs en troquant au prix fort ces terres rares, qui ne le sont pas tellement, contre des usines clés en main et donc la technologie occidentale à domicile. La volonté de multiplier les véhicules électriques passe par la fabrication d'accumulateurs NiMH au lanthane, justement, ou au nickel hydrure, et d'aimants compacts pour les moteurs synchrones sans balai, avec du néodyme, du dysprosium et du samarium, justement. L'oxyde d'yttrium entre dans les alliages métalliques résistants à la corrosion à haute température. Sans toutes ces terres rares, pas de véhicules électriques. Dès lors, les mines de Mountain Pass en Californie et celles de l'Afrique du Sud seraient rouvertes car elles pourraient redevenir rentables et des évaluations prospectives seraient en cours au Canada, dans le Nord-Ouest, Holdas Lake, au Vietnam, en Australie, en Russie et en Afghanistan. Car les perspectives d'emploi variées dans des productions nouvelles des terres rares se multiplient à grande vitesse. On en met même maintenant dans des produits aussi éloignés en apparence que les éoliennes et les colorants, après les pierres à briquets et les lampes à incandescence depuis 150 ans. Et si on ne découvre pas de nouveaux gisements, un monopole chinois laisse apercevoir une grimpée illimitée des prix et une domination inflationniste comparable à celle de l'OPEP sur le pétrole. Le choc, cette fois des terres rares, se profile à l'horizon sur les économies occidentales déjà en faillite. Il y a cependant quelques hics à cette recherche de métaux rares. D'abord, c'est lors de l'affinage des minerais que ces métaux acquièrent toute leur valeur, et là, c'est la technologie occidentale, car le minerai ne vaut pas cher par lui-même. Ensuite, cet affinage génère des déchets radioactifs, d'où le soin que j'ai pris à vous donner les numéros atomiques des éléments considérés, car souvent homologues chimiques d'éléments radioactifs graves, comme le fameux transuranien américium 95 et d'autres. Et là, on retrouve la rentabilité chinoise, où la surveillance de cette question radioactive est très peu importante, au point de voir se multiplier même des productions illégales un peu partout en Chine, polluantes pour l'environnement et dangereuses pour la santé du milliard de Chinois. Alors qu'aux USA, par exemple, il faut de nombreux permis difficiles à obtenir, car la santé des 300 millions d'Américains soucie davantage leurs autorités. D'ici 2 à 5 ans, la demande de terres rares devrait dépasser l'offre mondiale connue actuellement. Véhicules électriques et ordinateurs de poche obligent. L'armée américaine, ne voulant pas non plus, dépendre pour ses lasers de haute puissance, ses missiles, ses radars, des importations chinoises. Gageons qu'une course à l'appropriation de tous les gisements potentiels mondiaux va défrayer la chronique durant les 2 à 5 ans qui viennent, si même cela ne déclenche pas une guerre, si le monopole mondial devenait trop agressif. Vous avez dit terre rare. Dans l'actualité économique, financière et co2, la perspective d'un alourdissement terrible des impôts en France et en Europe pour 2013 se vérifie mois après mois. Le déficit du commerce extérieur français se creuse à 5,5 milliards d'euros en mai dernier, après 4,2 seulement en avril, si on peut dire. Les exportations s'affaissent alors qu'elles dépendent depuis des années de seulement quelques gros contrats rarement finalisés, faut quand même le dire en plus. Les Rafales, l'Airbus, il n'y en a eu que 19 de vendus en mai. Les importations augmentent. Bref, le déficit commercial va se transformer en déficit des règlements, donc en emprunt extérieur et intérieur. Ce déficit augmentera les autres déficits, comme celui du budget général public, qui atteint 50% des dépenses étatiques et para-étatiques. L'endettement global grimpe à 1535 milliards d'euros, soit 80,3% du PIB courant, alors que le critère de Maastricht était de 60% maxi. Pour l'ensemble des finances publiques, le dérapage annonce un futur crash inouï. On est passé au premier trimestre 2009, où il y avait 69,5% d'endettement, à 74, puis 75,8, puis 78, puis 80,3% au premier trimestre 2010. La glissade est effrayante et rien ne semble pouvoir l'enrayer. Dans ces conditions, la perspective de voir, après les élections présidentielles de 2012, les routes nationales françaises mises à péage par l'UE s'alourdit en même temps que les péages sur les autoroutes pourtant amortis depuis 1986. L'association 40 millions d'automobilistes vient d'attirer notre attention sur l'augmentation de 7,8 à 11,07% des péages selon les réseaux, avec l'alibi que l'inflation serait de 7,6% l'an. Outre cet indice, qui n'est pas celui dont le gouvernement se sert pour indexer les retraites et les salaires, prétendument de seulement environ 1%. Les sociétés privées, concessionnaires des 8 628 km d'autoroute qui aurait dû retomber dans le domaine public pour une grande part, selon la parole de Charles de Gaulle, oublié, entre guillemets, par Chirac depuis 24 ans, en 86. Lesquelles sociétés d'autoroutes osent justifier ces augmentations exorbitantes des tarifs appliqués aux automobilistes, tenez-vous bien, par le fait que la crise, entre guillemets, évidemment, l'alibi facile, aurait diminué le trafic des camions. Comme les sociétés d'autoroutes veulent continuer à gagner net plus de 1,2 milliard d'euros, la raréfaction des poids lourds les obligerait à surtaxer les particuliers au moment où ils se lancent vers les plages de juillet. En somme, les concessionnaires de l'État ressemblent à l'État comme deux jumeaux. Ils ne veulent rien changer à leur train de vie, malgré la constriction de nos revenus particuliers comme de ceux des entreprises. La rareté de ces pépettes devrait conduire le plus grand nombre à changer la direction des choses en ordonnant la constriction des dépenses publiques ordonnées par les politiciens et leurs affidés outranciers. Sinon, les cochons de payant, vont se faire de plus en plus rares au travail comme sur les autoroutes. Écho 3, économie monétaire. Un article récent sur 24 heures Gold d'un certain Howard S. Katz, à l'humour british très prononcé, rappelle que si l'Angleterre est devenue une démocratie, on se parle, depuis 1688, grâce à la fameuse Révolution glorieuse, le bon roi, qui était hollandais, régnant et guerroyant en même temps contre les Français, la contourna aussitôt. Ayant besoin d'1 200 000 livres pour sa guerre, livre tournois et pasterling comme le croit Katz, et le Parlement les lui refusant, il autorisa un certain Patterson à les lui fournir en papier-monnaie garanti par lui, alors qu'il n'en possédait que 72 000. Tout le monde se pâma devant cette grosse astuce géniale. Malheureusement, le bon peuple réclama ses sous, en pièces d'or et d'argent, à une caisse vide. Le roi emprunta donc au bon peuple son bon argent à long terme, en obligation d'État de l'époque, et le tour fut joué. Depuis lors, le papier-monnaie est systématiquement employé pour contourner la démocratie, entre guillemets, dont les dirigeants d'ailleurs n'ont cure. Même que maintenant, ce sont les banques qui ont pris la haute main sur une création monétaire encore plus sophistiquée, et je vous renvoie à mon histoire de la monnaie pour y voir clair. Le tour pendable, joué au bon peuple, est toujours le même, sous des aspects toujours plus virtuels. La rareté a atteint de nos jours la consistance d'un électron en face d'une Terre entière, que dis-je, d'un système solaire, de fausses monnaies, dont le bon peuple, du bon chef de l'État ultra-démocratique franco-européano-mondialiste, est gavé, comme on n'oserait même pas l'infliger à un canard. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.